Quelle est votre plus grande ambition dans la vie?
Devenir immortel. Et puis, mourir.
Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Ce soir, nous nous intéressons à un cinéaste français qui a inspiré des générations de réalisateurs et de cinéphiles du monde entier, devenu véritablement immortel à travers ses films. Alors préparez vos Stetson et vos lunettes de soleil, nous entrons dans un monde parcouru d'hommes solitaires et de boîtes de jazz fantasmées, celui de Jean-Pierre Melville. Pour cette émission consacrée au Cercle Rouge, je suis entouré d'hommes et de femmes qui ne sont ni flics, ni prêtres, ni flambeurs, mais des samouraïs de la pellicule, des enfants terribles du grand écran, une armée des ombres cinéphiles, je parle évidemment du collectif Vitamine Ciné. Ainsi, bonjour Adeline, bonjour Louis, bonjour Lucas et bonjour Victor, j'espère que vous allez tous bien.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bah, bonsoir Nico.
Ah, bonsoir.
Et avant de passer au cœur du sujet, je vous propose tout de suite de revenir brièvement sur un grand cinéaste qui nous a quittés il y a peu et qui parlait à la fois du cinéma français et de ses propres films au micro de la RTS en 1979.
Est-ce que le public suit, le public français suit ces cinéastes? Est-ce qu'il y a adhésion?
Par moments pas assez, parce que, notamment dans une partie de l'intelligentsia, on aime bien, s'extasier sur le courage des cinéastes étrangers, dire, regardez les Italiens.
Mais l'intelligentsia est une chose, la grosse masse du public qui y va le samedi soir ou le dimanche.
Pour certains films, déjà, s'ils avaient le succès de l'intelligentsia, ce serait déjà pas mal.
Oui. Vous êtes coléreux?
Je peux être assez violent, oui.
Vous êtes mis en colère après la justice aussi, hein, parce que le juge et l'assassin, il y avait une vieille rogne là, si vous me permettez l'expression.
Oui, non, j'aime bien, les films que j'ai faits, c'est Samuel Fuller qui disait qu'il fallait faire ses films quand on était en colère contre quelque chose. C'est vrai que je les ai tous un peu faits quand j'étais en colère contre certaines choses. Mais il n'y a pas seulement ça.
Et c'est donc Bertrand Tavernier qui nous a quittés le 26 mars dernier. Et c'est un grand vide qui est laissé dans le cinéma français, à la fois du côté de ses réalisateurs comme de ses cinéphiles. Car Bertrand Tavernier, c'est une immense carrière, difficile à résumer en quelques mots, puisque l'homme était à la fois un fervent cinéphile, au savoir encyclopédique et même institutionnel, puisqu'il co-dirigeait l'Institut Lumière. Et c'est aussi un cinéaste ambitieux, à la filmographie riche et éclectique. Ainsi, j'ai envie de vous poser cette question. Pour vous, c'était qui ou plutôt c'était quoi, Bertrand Tavernier?
Personne n'a envie de parler.
Pour moi, c'était quand même une certaine qualité d'écriture. C'est ça qui me choque en premier quand je vois, enfin qui me choque, qui me surprend de façon positive quand je vois ses films. C'est la qualité d'écriture. De toute façon, on le sait, c'était un féru de littérature. Il lisait énormément pendant sa jeunesse et pendant toute sa vie. C'était sa première passion avant d'aller dans le cinéma. Et ça se ressent de toute façon dans ses films, et de toute façon ça se ressent aussi par l'extrait que t'as mis, il y a quand même un certain souci du choix des mots. J'avais entendu une autre interview de lui où il disait qu'il travaille avec co-scénariste ou pas, il jetait 80% de ce qu'il écrivait à la poubelle. Ce qui fait que dans ses films on n'a que 20% de son travail, donc ça montre à quel point, comment il pense l'écriture de ses films. Et pour moi, c'est vraiment la qualité première de sa filmographie.
Et donc, tu as profité peut-être pour revoir des films à lui ou en découvrir?
J'ai malheureusement profité de sa mort pour revoir des films. J'avais déjà parlé de Capitaine Conan, évidemment, pendant la toute première émission de la séance du dimanche sur la Première Guerre mondiale. Et donc, j'ai vu ses grands films. Et il y a quand même aussi, au-delà de l'écriture, c'est vraiment l'humanisme de son cinéma, moi, qui me plaît. C'est vraiment un cinéma à taille humaine. Dans Capitaine Conan, pour y revenir, même quand il s'attaque à un événement aussi grand que la Première Guerre mondiale, il s'intéresse aux hommes qui sont écrasés et conditionnés par le poids de la guerre et qui vont, toute cette violence qu'ils ont vécue pendant 4 ans, ils la rejettent après dans la société. Et aussi, même dans La vie et rien d'autre, qui se passe aussi là tout de suite après la Première Guerre mondiale, et aussi ce souci de faire un film à taille humaine.
Et toi, Louis, c'est quoi ton rapport au cinéma de Tavernier?
Moi, évidemment, je partage votre tristesse, la mort de Tavernier. Je partage votre amour aussi de ce réalisateur. Bah, comme tu l'as dit en introduction, enfin, je pense que c'était un amoureux du cinéma français. Il a montré, bah, comme tu l'as dit, à travers ses écrits, comme à travers ses films. Et pour moi, se plonger dans la filmographie de Tavernier, c'est rencontrer déjà une multitude d'acteurs et d'actrices formidables. On pense à Philippe Noiret, évidemment, Isabelle Huppert aussi, Jean Rochefort, Michel Calabru.
Philippe Torreton, c'est
énormément d'acteurs et d'actrices qui sont magnifiques. Et aussi des thématiques très variées, ça va de la comédie noire jusqu'au roman historique. Alors je sais que j'ai manqué, moi, ma rencontre avec certains films de Tavernier. Je pense notamment au Juge et à l'Assassin, que j'ai pas trop aimé au moment où je l'ai vu. Même si je reconnais que c'est un grand film, je pense que ça tient plus à c'est plus de ma faute que de la faute du film. Et à l'inverse, il y en a que j'ai adoré. Je pense à L'Horloger de Saint-Paul, son premier film, dans lequel on reconnaît déjà tout son style, comme tu disais, très humaniste en effet, Lucas, porté par le duo Noir et Rochefort qui porte le film magnifiquement et qui m'a inculqué une certaine image de la ville de Lyon que j'ai pourtant jamais visitée, mais que je connais grâce à certains films de Bertrand Tavernier, dont celui-là. Et sa mort m'a donné envie de découvrir certains films un peu plus récents qu'il a fait, que je connaissais pas. J'étais notamment étonné de savoir qu'il avait tourné un film, un polar avec Tommy Lee Jones,
oui,
qui s'appelle Dans la brume électrique. Et j'aimerais voir aussi le documentaire qu'il a réalisé, dans lequel il se raconte, et il raconte les films qui l'ont marqué. Ça s'appelle Voyage à travers le cinéma français. Je vais découvrir ça avec grande impatience.
Bah c'était un très beau film qu'il a aussi adapté en version longue, quoi.
Il dure plus de 3 heures, je crois.
C'est déjà un film qui est très long, qui dure 3 heures et demie, que je prêterai en DVD d'ailleurs.
Bah, merci.
Si tu veux. Et il y a aussi un coffret qui est sorti, donc qui a été diffusé d'abord sur France 5, où il y a 8 épisodes de 1 heure, où il revient encore plus en profondeur sur beaucoup de cinéastes qui l'ont marqué. Donc justement, toi Adeline, est-ce que c'est un cinéaste qui t'a marqué, ou quel est ton rapport à toi aussi avec Tavernier?
Alors tout d'abord, je vais revenir sur ta première phrase. C'était qui ou c'était quoi? Qui n'est pas de toi, on le sait, mais
évidemment,
qui est bien inspiré. Et en fait, je trouve que c'est très drôle la réaction qu'on a eue, le gros blanc un peu, personne n'ose parler, etc. Parce qu'en fait, quand j'ai eu la dépêche AFP du fait qu'il était mort, j'ai vraiment eu un gros blanc, un gros blackout, genre je ne sais pas, je sais son nom, je sais que c'est un grand réalisateur, mais je ne saurais pas citer un de ses films. Genre, vraiment, je ne savais pas du tout. Et alors du coup, je suis allée chercher sur Internet, j'étais là, effectivement, je connais beaucoup, beaucoup de ses films, mais en fait, il y a une filmographie tellement différente à chaque fois et tellement d'étapes qui sont vraiment... folle dans ma vie, par exemple, bah, Coup de torchon, vraiment noiré, etc. Enfin, c'est des films très durs. Et en parallèle, on a La princesse de Montpensier. Alors, vous en avez pas encore parlé, mais pour moi, La princesse de Montpensier, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est un film que j'ai vraiment énormément aimé, que j'ai vu très tôt, que j'ai vu parce qu'il y avait Grégoire le Prince Ringuet, dont on parle pas assez, mais qu'on devrait parler de plus. Et en fait, c'est vrai que bah, du coup, c'était très difficile pour moi d'expliquer ça, parce que au-delà de son caractère humaniste et de tout son engagement sur le cinéma, mais aussi en politique, parce qu'en fait c'était quelqu'un qui était très engagé sur les droits de l'homme, sur les sans-papiers, etc. En fait, c'est vraiment un réalisateur pluriel. Et à la différence, donc bon, c'est un peu triste, mais nos intros sont en ce moment très...
nécrologiques.
Très nécrologiques. À la différence de Bacri, en fait, c'est difficile de le catégoriser, parce qu'en fait, il a fait énormément de choses. Et je pense que toute cette ampleur, c'était aussi parce qu'il avait une grande cinéphilie. Et qu'en fait, il a voulu s'attaquer à plein de choses, parce qu'il avait soif de parler, et de parler de cinéma dans toutes les positions et possibilités qui étaient.
D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on lui a reproché. Tu parlais, Lucas, d'un cinéaste littéraire et à taille humaine. Et beaucoup de critiques, à l'époque, lui ont reproché de faire les films dont il était très envers lesquels il était très critique. Ce qu'on a aussi reproché à Truffaut. Et des critiques, ils disaient, oui, Tavernier n'a pas de style propre. Car c'est vrai, comme vous l'avez tous les trois dit, il a une filmographie très éclectique, très explosée, en fait. Mmh. Ça va, oui, de drames historiques à des films aux États-Unis, à des documentaires, à des adaptations de faits divers. J'ai vu hier Lapa, notamment, qui est un film dont je n'avais jamais entendu parler.
Des adaptations de BD aussi, parce qu'on n'a pas parlé
de Quai d'Orsay. Oui, de Quai d'Orsay, qui est son dernier, je crois que c'est sa dernière fiction.
Je pense, oui.
Et donc tous ces adjectifs dont on a parlé, ça nous rapporte au fait que c'est aussi donc, un grand directeur d'acteurs, qui a tourné avec beaucoup d'acteurs, il les a évidemment très bien dirigés. Moi, c'est un cinéaste aussi dont j'ai un rapport assez particulier, qui est, comme tu disais, c'est un cinéaste éclectique, donc chacun avoir un rapport avec Tavernier. Car moi, c'est un cinéaste qui est lié à ma découverte carrément d'un certain cinéma français et aussi à mes études. Tout un prof, lors de ma première année en fac d'histoire, m'avait conseillé Que la fête commence, car il disait, oui, c'est le meilleur film sur cette période qui est une période de la régence de Philippe d'Orléans, qui est un truc assez court, entre 1715 et 1723, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai découvert donc par le prisme de l'histoire, moi, vraiment, Tavernier. Donc, on a cité, oui, t'as cité Lucas, Captain Conan et... La vie et rien d'autre, oui. Donc, ce sont deux magnifiques films dont on a déjà parlé. Et surtout, Tavernier, au fur et à mesure qu'on se plonge dans sa filmographie, on découvre toute la richesse et on commence à mieux cerner le personnage. Donc, plus on voit des films de Tavernier, au final, plus on cerne ses mimiques, ses obsessions. Et c'est donc, oui, c'est un cinéaste dans lequel chaque cinéphile peut trouver quelque chose qui lui plaira.
Ouais, tu parlais aussi des grands acteurs qu'on tournait dans les films de Tavernier, et c'est vrai. Mais je trouve que c'est aussi quelqu'un qui a accordé une grande importance aux personnages secondaires et donc aux acteurs un peu plus marginaux. Et ça se ressent vraiment dans tous ses films. Et donc on parlait de Quai d'Orsay, et je trouve que c'est assez symptomatique de ce phénomène parce que il y a le personnage de Nils Arestrup, qui est quand même assez secondaire, mais on sent que vraiment dans l'ombre, c'est lui qui est la clé de tout. Donc là, en l'occurrence, du ministère des Affaires étrangères. Donc je trouvais que c'était un bon exemple pour montrer que, au-delà des grandes figures, des premiers rôles, il y avait souvent en dessous beaucoup plus de choses, tout un paysage qui est formé par des personnages secondaires qu'il écrit vraiment très bien aussi.
Oui, c'est sa qualité en fait historique aussi, puisque pour revenir sur La Princesse de Montpensier, c'est aussi pareil que dans Quai d'Orsay. La Princesse de Montpensier, c'est beaucoup critiqué. Moi, je sais pas vraiment si j'aime beaucoup ce film parce que c'est une adaptation, certes, et puis c'est compliqué. Mais chaque personnage secondaire est tellement construit qu'on ne saurait dire dans La Princesse de Montpensier qui est le personnage principal, parce que certes, on peut dire que c'est La Princesse de Montpensier, mais il y a plein d'enjeux différents. Il y a le duc d'Anjou, plein de choses comme ça. Et en fait, chaque personnage et chaque acteur est mis au même niveau de qualité. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'acteurs qui sont très connus dans ce film. Et pour autant, en fait, sur l'affiche, je crois qu'il y a 7 personnages dedans. Enfin, parce que c'est vraiment des films romancés, avec plein d'interactions, etc. Et voilà, je pense que c'est la force de ce réalisateur, c'est d'avoir su comprendre ses acteurs.
Et donc malheureusement, on a déjà dépassé le temps qui nous était alloué pour parler de Tavernier, parce que vraiment, c'est quelqu'un, on pourrait en parler pendant des heures.
On peut peut-être juste notifier aussi que certains de ces films sont sur Netflix, là, depuis le début du mois de mars.
Bah, ça fera partie de mes recommandations pour boucler l'émission. Et donc voilà, Tavernier, on vous conseille évidemment de voir beaucoup de ces films. Et on y reviendra donc peut-être en fin d'émission. Car pour l'instant, on va parler d'un autre cinéaste qui était aussi cinéphile. Et transition tout trouvée, qui avait un rapport avec Tavernier directement. Puisque, selon les versions, c'est Claude Sautet, selon les versions, c'est Jean-Pierre Melville. Mais en tout cas, Melville aurait convaincu les parents de Tavernier de le laisser rentrer dans le monde du cinéma, dans lequel donc Tavernier a commencé en tant qu'attaché de presse, critique de cinéma, il a fait un peu tous les rôles. Et donc justement, Jean-Pierre Melville est au centre de notre émission du mois, et on va parler du Cercle Rouge juste après un petit trailer.
Tu es le seul à qui j'oserais proposer une affaire. Classique, sûr, sans risque, si elle est bien faite. Et si elle est mal faite?
Je vous charge de retrouver Vogel par tous les moyens. Et quoi qu'il vous en coûte.
Vous pensez qu'il va réussir?
Il arrivera. Pour une fois, le gibier est intelligent.
Ce sera de l'ordre de 2 milliards d'anciens francs. Prix de vente.
Il reste à trouver le tireur d'élite. J'ai connu il y a 4 ou 5 ans un très bon tireur. Un policier.
Eh ben Nico, les deux dernières émissions, c'est toi qui m'as posé la question, mais cette fois c'est moi qui te la pose. Pourquoi avoir choisi le Cercle Rouge aujourd'hui ?
Tout d'abord car je voulais qu'on parle d'un film français classique. Et les années 60-70, c'est des années qui me tiennent particulièrement à cœur. Et le Cercle Rouge, donc, ça va nous permettre de parler de grands acteurs français, d'Alain Delon, de Yves Montand, de Bourville, mais aussi de Melville, donc, qui est un cinéaste dont j'adore une poignée de ses films et dont je trouve la filmographie dans son ensemble très intéressante. Et bien sûr, le Cercle Rouge, c'est avant tout un excellent film, en tout cas à mes yeux, et je suis curieux d'avoir votre avis sur la question. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait faire peut-être un petit résumé rapide pour situer l'histoire et l'ambiance du film? Je vois que Louis dit non de la tête, Lucas non plus. Bah, Dean, ça sera à toi, malheureusement.
Alors, je suis vraiment désolée, parce que peut-être que ce résumé va être très, très, très confus. Alors, on commence par Alain Delon. Dont le prénom dans le film
c'est Corée, mais c'est pas important. Corée.
Il est en prison. Il est en prison et il va peut-être sortir le lendemain parce qu'il va avoir une remise de peine qui va être jouée par un de ses gardiens qui lui propose de faire une affaire et c'est la condition pour laquelle il sera libéré. Si j'ai tout bien compris, il est dans le sud de la France, à Nice.
À Marseille.
À Marseille.
On voit la gare de la Blancarde au début, que je pense que Louis a reconnu.
Bien sûr.
Donc, il part de Marseille, il loue une voiture, mais entre-temps, il va voir une personne qui lui était importante pour récupérer des sous. Cette personne refuse de lui donner des sous et il part en voiture. Il rencontre quelqu'un sur la route qui est aussi un malfrat, qui s'est enfui d'un train dont il était gardé par un policier qui était Bourville.
André Bourville lui-même.
Ces personnes se retrouvent. Il y a plein d'aventures. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié mon résumé. Alors,
on a apprécié ton résumé, mais est-ce que tout le monde ici a apprécié le film ? Je crois qu'on a tous des avis assez divergents. Donc j'ai demandé à toi, Lucas, que penses-tu du Cercle Rouge ? En tout cas, quand l'as-tu découvert et qu'en penses-tu ?
Bien, j'ai découvert il y a quelques années, c'est pour ça que j'étais pas trop chaud pour faire un petit résumé. Mais j'adore ce film qui pour moi représente très bien le cinéma de Melville. Bon, on a pu le comprendre à travers le résumé d'Adeline, c'est pas un scénario révolutionnaire, c'est des malfrats, t'as trois destins qui s'entrecroisent, et t'as un braquage, en gros c'est ça. Mais comme d'hab avec Melville, c'est l'atmosphère qui change tout, et surtout c'est le fait que le récit soit centré sur des personnages très forts, et forcément quand t'as un trio avec Delon, Bourville, Montand, auquel tu rajoutes Gian Maria Volonté, bah ça offre tout de suite quelque chose de fascinant et quasiment hypnotique. Moi je me souviens avoir été vraiment happé par donc toute la scène du coffre de voiture où Alain Delon s'arrête dans un restaurant au bord d'une route. Il y a le fugitif qui se cache dans son coffre. Alain Delon fait semblant de pas avoir vu ça, mais il le sait très bien, il est trop fort. Avec une moustache. Et voilà, il y a tout un jeu avec ça quelques minutes plus tard. Et on reviendra plus tard sur la scène de braquage où j'ai aussi pas mal de choses à dire dessus, mais peut-être que je peux vous laisser enchaîner pour l'instant.
Donc Louis et toi, comment t'as découvert ce film ?
Je l'ai découvert assez récemment, pour tout te dire, je connaissais très peu le cinéma de Melville, enfin je le connaissais mais j'avais quasiment pas vu de film de lui et ça m'a permis du coup de combler ce trou dans ma filmographie, donc j'ai regardé Le Cercle Rouge assez récemment. Et écoute, c'est un film que j'ai bien aimé. Je le classerai pas parmi mes films préférés, mais j'y trouve de très bonnes choses. Comme l'a dit Lucas, on retrouve tous les thèmes favoris de Melville dans ce film, donc je pense que c'est aussi pour ça que tu l'as choisi. Oui. La deuxième chance qui est accordée à plusieurs personnages, que ce soit les fugitifs ou le policier joué par Yves Montand, la constitution d'une équipe d'élite et puis la préparation du casse et sa réalisation qui sont vraiment minutieux. Puis on retrouve, tu le disais un petit peu en introduction, certains décors qui sont emblématiques des décors de Melville, la boîte de nuit, c'est ce que tu disais, la voiture, Adeline l'a dit, et puis des scènes dans le train aussi. Ouais, c'est... Moi, je voulais pas trop le pitcher au début parce que je le trouve un petit peu compliqué, moi, à pitcher, parce que c'est une juxtaposition de plusieurs histoires, ils vont se retrouver... dans ce qu'on peut appeler un cercle rouge, un peu symbolique à la fin, dans une séquence centrale, ou presque un film dans le film, c'est la scène du braquage. Je pense qu'on va revenir, parce qu'on ne peut pas parler du cercle rouge sans parler de cette scène-là, qui est magnifiquement réalisée, qui est magistrale. Ouais. Ouais.
Et toi, Adeline, alors tu vas être la personne qui n'a pas aimé le film ici.
Tu spoil complètement mon effet d'annonce. Enfin,
je crois, j'ai cru comprendre.
Personne ne sait si j'ai bien aimé ce film ici.
Alors, as-tu bien aimé le film ?
Alors, ce que je vais dire va être un fil rouge à cette émission pour moi, c'est que pour revenir sur Melville, je n'avais vu que Le Samouraï avant de me lancer dans l'émission, donc je regarde Le Cercle Rouge que j'ai détesté, vraiment, genre ça a été un long moment pour moi, vraiment un long moment, et je suis d'accord sur ce que tu dis Lucas, c'est hypnotique, il y a des scènes qui sont très intéressantes, etc. Mais pour autant, j'ai trouvé que il y avait plein de choses qui n'allaient pas et que vraiment je me suis retrouvée très énervée devant ce film. Énervée pourquoi ? Parce que j'avais prévu cette émission et je me suis rendu compte que ça faisait déjà le quatrième film que je disais que je n'avais pas aimé en début d'émission. Et là je me suis dit, il y a un vrai problème. Tu t'aimes pas les films et en fait il faut essayer de construire ce sentiment que tu as eu par rapport à ce film. Du coup j'ai regardé tous les films de Melville.
Tous.
À la suite.
Ah oui.
Pour essayer de construire mon argumentaire, parce que j'étais là, c'est pas possible, parce que j'ai trouvé que ce film était lent, qu'il y avait des scènes qui étaient vraiment prenantes, et alors moi c'est pas vraiment du tout la scène du braquage, parce que la scène du braquage, j'avais déjà décroché, j'en pouvais plus, mais la scène dont tu parles sur le coffre et tout, j'ai trouvé ça très très beau et très intéressant, mais la scène qui m'a le plus marquée, c'est Yves Montand. C'est les scènes d'hallucination.
La première scène
où on le voit, la scène d'hallucination m'a énormément marquée. Et en fait, j'étais tellement déçue que... En fait, je pense que ce film, pour moi, c'est une déception dans le sens où rien n'est abouti. Il n'y a aucun personnage, enfin à mon sens, c'est très long, c'est très très long, et pour autant il n'y a aucun personnage. Et si, enfin, je sais pas, mais par exemple, Corée, on sous-entend, donc Alain Delon, on sous-entend qu'il a eu une histoire d'amour avec une personne.
Bon, je sous-entends, enfin c'est...
Enfin voilà, on la voit au début, on la voit en photo, dans son... Ce n'est jamais, enfin c'est jamais abouti, et en
fait...
Parce
que c'est pas le but.
Oui, mais ce qui est frustrant, c'est que du coup, toutes les branches que l'on prend 1000 ans à nous expliquer, genre Yves Montand est alcoolique, il a un pistolet sur son sur son truc, rien n'est abouti. Et en fait, à la fin, genre la scène du braquage, j'en en pouvais plus parce que j'étais là, c'est d'une lenteur. Il y a pas de phrase, il y a pas de, enfin.
Mais je trouve que ça fait, c'est ce qui fait toute la beauté du film.
Non, mais je suis
lenteur contemplative.
Sur le fait que quand tu dis que c'est pas abouti, c'est parce que t'as l'impression de pas en savoir assez sur les personnages.
En fait, j'ai l'impression que à la fin du film, qu'est-ce que j'ai appris, genre. J'ai pas appris grand chose. Et en fait, tout ce que j'aurais aimé qu'il soit plus poussé, par exemple, la relation entre Corée et l'autre malfrat, qui est ultra intéressant. Bourville, enfin, en fait, je trouve qu'il y a trop de personnages, il y a trop d'éléments, et que finalement, ils ne s'imbriquent pas bien. Enfin.
Ah, si.
Au contraire, je trouve que justement, il y a. Oui, c'est pas des personnages qui sont très écrits, en tout cas, qui sont pas surécrits. Mm. C'est pas genre, on va dire, ah ben regarde, il s'est marié avec telle personne, le malfrat lui a volé sa femme, etc. Je trouve que justement tout passe par la mise en scène, et donc Melville est un immense perfectionniste. Là, c'est son avant-dernier film, et c'est là, je trouve, qu'il atteint le summum de chaque plan. On voit qu'il travaillait, il dessinait chaque plan, ça se voit. Et donc tout passe vraiment par la mise en scène. C'est pas un cinéma bavard, comme le casse. Et d'ailleurs, à la fin, je sais pas si vous avez retenu ça, mais juste après le casse, Bourville voit les images de caméra et dit, ah ben, c'est pas très bavard. Mmh. Et c'est presque une blague de Melville à lui-même, parce que oui, son cinéma n'est pas bavard, mais il a pas besoin de l'être. Les films n'ont pas besoin d'être bavards, et tous les personnages, oui, c'est pas, on connaît pas forcément leur passé parce qu'on n'a pas besoin. Ce qui intéresse Melville, c'est vraiment de voir ces personnages qui, à un point donné, vont se rencontrer et vont avoir un destin sûrement tragique, quoi, comme dans tous les films de
Melville. Mais je suis totalement d'accord, et en fait, je trouve que, enfin, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas un film bavard, mais j'ai trouvé que tout ce qui était, tous les discours et tout, en fait, les paroles et toute cette bavardise, elle était inintéressante parce qu'en fait, ça donne des éléments au scénario qui ne sont pas là. Par exemple, il y a un long moment sur le fait que le personnage de Bourville est potentiellement corse. Ils en parlent. C'est jeter ça, enfin c'est jeter à la mer comme ça. On ne va pas du tout exploiter ce champ-là qui pourrait être ultra intéressant dans sa construction par rapport à la police, etc., par rapport au malfrat. On a l'impression que ça va nous donner des éléments et en fait il y aura pas d'éléments. Et c'est ça qui m'a un peu frustrée dans ce film, c'est que en fait, même si il est peu bavard et que les actions sont prenantes et qu'en fait il y a plein de jeux sur le regard, sur la latence, etc. Étrangement, ça ne donne pas... Enfin, à mes yeux, et je suis pas d'accord avec toi non plus quand tu dis que le cinéma de Melville, il est pas bavard, parce que c'est pour ça aussi que j'ai regardé tous les films, et notamment Le Samouraï, où il y a beaucoup de... Tant et si bien que quand tu m'as fait faire le résumé, je trouve qu'il y a beaucoup trop de similitudes entre Le Samouraï et le Cercle Rouge, et qu'il y avait des moments où je me perdais un peu. Enfin, sur des scènes, par exemple, les scènes du bar...
Mais c'est la même atmosphère.
C'est le même, mais... En plus, bah, du coup, je me suis renseigné, c'était les mêmes locaux, enfin, les mêmes studios, donc du coup, c'est ultra frustrant.
Des boîtes de nuit qu'on reconnaît, des sacs de jeux qu'on reconnaît.
Ça, je trouve que c'est super agréable de voir vraiment cette ligne conductrice d'un cinéaste qui était à l'époque, à son époque, il y a eu Pagnol avant lui, mais à son époque, c'était le seul cinéaste à avoir ses studios, à tout être vraiment. On n'en parle pas assez, parce que Melville, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est devenu un peu une figure lointaine. Mais c'est un cinéaste qui contrôlait tout, qui vivait dans ses propres studios de cinéma. Donc il disait des fois, la nuit à 5h du matin, je me levais en robe de chambre, je réglais un peu l'éclairage pour la scène et tout, car j'étais insomniaque.
Avoir ses propres acteurs aussi,
c'est ça,
ou il presque. Et là, un qu'on voit, mais totalement à contre-emploi, Bourville, impressionnant pour moi, dans son rôle assez tragique, alors qu'on le connaissait plutôt dans des rôles comiques. Et Adeline, tu me dis que t'as pas été touchée par certaines scènes avec des personnages. Est-ce que la scène de Bourville qui retrouve ses chats le soir en rentrant chez lui ne t'a pas touchée?
Bien sûr, mais parce qu'il y a un effet chat, forcément. J'étais touchée par ses chats.
Mais ça en dit énormément sur lui. C'est tout le cinéma de Melville, tu disais, c'est très peu bavard. Et ça joue vachement sur l'imagination en fait, du spectateur. C'est parce que tu peux tout lire dans la tête de Long, tu peux tout lire sur la tête de Montand.
Blague à part, ça en dit beaucoup en effet sur la solitude du personnage, etc. Il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Tout passe, comme disait Nicolas, pour moi, par la mise en scène et par le jeu des acteurs, sans leur dialogue finalement, sans passer par leur dialogue.
Mais je suis assez d'accord avec vous sur, par exemple, la scène de Bourville avec les chats, c'est très intéressant, très touchant, mais pour moi, c'est une scène à part. En fait, le seul truc, c'est que c'est un film qui se veut un peu choral, c'est-à-dire qu'à la fin, tout le monde va se retrouver, et pas choral, mais pour autant, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment... plusieurs étapes, et des étapes qui sont entrecoupées, marquées, et en fait, par exemple, le moment où Corée et le malfrat sont dans la voiture, j'ai trouvé ça très intense quand il y a une course-poursuite et que, en fait, ils sont rattrapés, qu'ils tuent les gens, enfin, j'ai trouvé ça très intense, mais pour autant, la scène se termine, et on la laisse partir un peu, et j'ai trouvé que c'était assez frustrant parce que le fil conducteur nous accroche pas au film.
Mais c'est vraiment ce que je trouve justement, que le fil conducteur c'est aussi la force de ce film. Donc oui, je comprends, il a un rythme assez lent, je comprends qu'on puisse le trouver long parce que c'est quand même presque 2h30, pas du tout bavard, mais au contraire, quand j'avais vu le film, donc déjà il y a 2 ans, et c'est des scènes qui m'avaient marqué en particulier, c'est des étapes du film. Donc c'est, comme tu l'as dit Adeline, c'est l'apparition de Montand. C'est vraiment une scène, on dirait, sortie du cinéma de Buñuel, oui, où il a des hallucinations et tout. Donc c'est vraiment des scènes clés comme ça qui m'ont marqué. Ça, et bien sûr le cast dont on est obligé de reparler, de revenir juste après dessus. Mais entre ces étapes, c'est pas des étapes qui sont là pour réveiller le spectateur. Je trouve que c'est des étapes qui s'insèrent dans un fil rouge qui, on sait où ça va aller. On sait très bien où tous les films de Melville vont aller, à une confrontation finale et à la mort de plusieurs personnages. Et pourtant, c'est un rythme qui est maîtrisé, car chaque plan est maîtrisé, chaque plan est maîtrisé et nous amène, pour peu qu'on se plonge dans le film, nous amène, on se laisse porter par le film et nous amène d'un point à l'autre, et tout est clair, quoi. Je trouve que c'est vraiment une ligne claire.
Je te rejoins là-dessus. Moi, je trouve qu'il est assez bien construit. Il y a 3 parties. Il y a la première, c'est l'évasion. La seconde, c'est la réunion. Et la troisième, c'est l'explosion à partir de la séquence du casse, dont on peut peut-être parler maintenant. Écoute, pour moi, vraiment, c'est la démonstration de force de tout le talent de Melville, cette scène. C'est-à-dire que ça réunit en une séquence de 25 minutes, comme on l'a dit tout à l'heure, somptueuse. Sans dialogue ni musique, ça réunit vraiment tout ce qu'on connaît de lui. Sans dialogue ni musique, il filme quasiment en temps réel tous les gestes méticuleux, millimétrés, des trois braqueurs. Et j'ai ressenti une tension extraordinaire pour moi dans cette séquence.
C'est parce que, oui, comme tu dis, chaque geste est filmé, et même l'apparition de Montand est tellement bien insérée dans ce casse. On a Montand, on le voit arriver, on voit parcourir vraiment chaque escalier qu'il monte, et chaque escalier rajoute une note de tension. Je sens que chaque escalier
j'ai regardé 2 fois cette scène, parce que la première fois, genre, j'ai trouvé que c'était insensé de me faire de m'ennuyer, enfin de m'énerver autant, de pas comprendre toutes les teneurs, et j'étais là, bon, peut-être que c'est parce que t'es pas assez concentré. Donc je remets le film et je remets ce passage, parce que c'est quand même le passage crucial du film, normalement ça devrait un peu m'émouvoir et tout, et je n'en pouvais plus. J'arrivais à monter les escaliers, j'étais là, mais enfin, vraiment, coupons-le ce moment, parce que
c'est ce qui fait toute la force de la scène.
C'est ça, c'est le manque de sensationnalisme, mais pourtant, même sans ce manque de sensation, t'as quand même de la tension, comme tu l'as dit, Louis, parce que c'est muet. Tous les gros plans sur les gestes méticuleux, c'est en temps réel, hein, c'est pas presque en temps réel, c'est vraiment en temps réel, je crois. Et ça fait vraiment un tuto YouTube, comment braquer une bijouterie, quoi. Et récemment, j'ai vu Un condamné à mort s'est échappé Robert Bresson.
Incroyable.
Et ça m'a vraiment rappelé ça, parce que là, du coup, c'est un condamné à mort qui s'échappe d'une prison. Et pareil, tu vois tous des gros plans, des gestes méticuleux, ils cassent une porte. Alors que là, dans le cercle rouge, je crois, ils font un trou dans une toute petite vitre, en cercle d'ailleurs. Je pense que c'est exprès. Et donc voilà, c'est le manque de sensationnalisme et qui passe aussi par les masques.
Oui,
c'est-à-dire que quand tu te permets d'avoir Delon et Montand dans une même scène, donc voilà, gros coup marketing quand même, et tu te permets pendant une demi-heure de pas voir leur visage. Je sais pas si c'était des doublures ou pas d'ailleurs, mais
je pense pas.
Je pense pas non plus, mais bon. Donc c'est quand même c'est un pari où il va jusqu'au bout, la Melville, et qui pour moi est totalement réussi.
Et c'est vraiment que tu parles de Un condamné à mort s'est échappé, qu'un film que j'ai découvert et qui m'a aussi estomaqué. C'est fou d'avoir une telle maîtrise, tout est dans la mise en scène, quoi. Car on reprochait à l'époque à Melville de faire du Bresson. On lui disait, oui, Melville fait du Bresson. Et lui répondait de son air, on va parler après plus profondément de Melville. Il me disait, non, c'est Bresson qui fait du Melville. Et donc, ce film donc s'insère comme on l'a compris avec, en tout cas, vos avis à Lou et Lucas, c'est vraiment l'apogée de la carrière d'un cinéaste. Et je pense que ça va être intéressant aussi de revenir sur les autres films pour comprendre, toi, ce que tu reproches, et peut-être que justement tu n'aimes pas cet apogée de carrière de cinéaste parce que tu n'aimes peut-être pas l'univers en entier du cinéaste. En tout cas, c'est ce qu'on verra juste après un petit jeu.
Nous allons jouer à un jeu.
Not a chance.
avoir été avec les joueurs. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
One, two, three.
Je vous propose un autre jeu plutôt. Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours.
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours.
Et donc cette fois-ci, c'est Victor qui nous a concocté un jeu, ce qui va permettre à Lucas de participer. Mais aussi, ça va nous permettre à nous tous de découvrir un nouveau jeu, je crois, prénommé le Blind Sound, si j'ai bien suivi.
Eh non, c'est pas du tout ça.
Ok.
Ça s'appelle le Blind Sourd. C'est un petit jeu de mots nul avec Blind Test. Et vous allez devenir sourd parce que je me suis amusé à charcuter les chansons de vos films préférés en les agrégeant de distorsion et d'autotune. Que je me rappelle bien du truc. Ouais, c'est ça. On a donc du coup 5 extraits qui vont du plus évident au moins évident. Donc du coup, généralement, de la chanson la plus connue d'un film très connu à la chanson la plus sombre d'un film relativement élitiste, on va dire. Et sans plus tarder, je vais
donc,
vous envoyer.
Juste, il faut dire quoi, faut dire notre prénom pour répondre en premier et ensuite.
Alors, soit je reconnaîtrai vos voix au pire, mais soit vous criez le nom de la, donc au choix de la chanson, du film ou de l'auteur. Dans tous les cas, vous avez un point pour chaque truc. D'ailleurs, je vais sortir mon petit truc pour calculer les points.
Je pense que pour prendre la parole, on crie notre prénom d'abord et après.
D'accord.
Ok,
c'est toujours trop compliqué pour moi.
Donc on résume, il va y avoir des.
Déjà un blind test, c'est difficile.
Alors là, on résume, il va y avoir un blind test un peu modifié. Il faut créer notre nom et donner soit le titre du film, soit du compositeur, soit de la chanson.
Ne vous en faites pas, en vrai, les chansons sont pas si dures que ça, les films sont pas si horribles que ça non plus. Enfin, j'ai fait un truc sympa pour la première.
Ah bah allez, c'est parti.
Plus tu dis que c'est simple, plus Louis et moi se mentent.
Surtout qu'il y a Lucas maintenant.
Lucas est tourné vers la vie.
Je vais découvrir ce que ça fait de prendre une branlée chaque mois par Nicolas.
Arrêtez.
Non mais c'est convivial.
J'ai l'impression.
Non, bon, du coup, il y a 3 points à prendre sur chaque truc, sur chaque extrait. Vous avez le nom de la chanson, le nom du film et l'année du film. Très bien. Parce que pour le compositeur, ça risque d'être un peu technique pour certains. Tout de suite, on part sur le premier extrait qui est assez simple. Adeline, tu es là ?
La musique, c'est Daft Punk ?
Non.
Non ?
Pas
ok,
du tout, ça va
bah
pas.
Voilà, allez.
Ah, Nicolas.
Ouais.
Top Gun.
Ouais.
Et voilà.
Est-ce que tu as le nom de la chanson qui va
Alors,
avec
c'est Take My Breath Away.
Ouais, d'accord. Est-ce que tu as l'année de Top Gun ?
Alors, j'hésite, mais je crois que c'est sorti en 86.
Exactement.
Parfait.
C'est si peu radiophonique, mais le regard de Louis en dit long sur cette partie.
Je l'ai reconnu à la ligne de basse qui est assez...
C'est
assez particulier.
Le petit pom 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 pom. Ouais, je misais là-dessus parce
et donc
que
là c'était le plus évident.
ça c'était le plus évident.
D'accord.
Donc est-ce que tu es heureux pour la suite?
Totalement confiant.
Bon, attends, tu peux peut-être te rattraper sur le deuxième extrait qui passe tout de suite. Ah putain, mais. J'ai quand même de dire le nom de la chanson.
Mais oui.
Nicolas,
ouais.
Est-ce que c'est Streets of Philadelphia?
Exactement.
Par Bruce Springsteen.
Ouais.
Alors l'année de sortie, je crois que je l'ai... On va dire 92.
Alors attends, je regarde mon petit...
Là c'est scandaleux, on avait...
Non, c'est pas 92.
Ah ben...
Est-ce que vous voulez tenter du coup...
Est-ce que ce serait pas 97
Absolument pas. Allez, chacun tente pour un point.
91.
Non.
C'est plus, c'est moins.
C'est
on
plus.
Change de jeu.
C'est la juste date. Et donc du coup... Personne
89
93.
Ah.
93. Donc du coup...
Belle année en plus.
Ouais.
Victoire de l'OM en Ligue des Champions.
Sortie de In Utero de Nirvana, très bel album.
Wow.
Bon, du coup, on est à 5-0-0-0. Peut-être.
Rappelons
que
c'était la deuxième plus facile.
Voilà, bah, je pense que la troisième va
y en a combien,
parler.
Il y en a
5 en tout.
Ok.
Allez.
Donc rien n'est joué encore, hein, pour le coup.
On peut le faire. Si on
battre Nicolas.
Si bah,
c'est ça. Ouais. Vous savez quoi? Pour vous, je vais compter tous vos points cumulés. Donc une équipe.
Oh non.
Arrête l'humiliation.
Ouais, troisième extrait tout de suite.
Oui, oui.
Oui.
Les parapluies Cherbourg.
Bien joué.
Oh là.
De Jacques Demy.
Oui, tout à fait.
68.
Et c'est... non, c'est pas 68.
65.
Non. 69.
Non.
66 ?
Non.
C'est plus tard, il a dit, Louis.
C'est moi, pardon.
C'est
moi.
C'est 63.
64.
Ah, mince. Bon, c'est moi qui...
C'est 64,
bon, ça me fait combien de points, cette affaire ?
Ça, ça te fait 2 points. Yes. Et c'est toi, Nicolas, qui a dit 64 ?
Oui, c'est moi. C'est Nicolas.
Eh ben, on lui donne un point en plus, pour rigoler. Ok, rien n'est joué. 6-2. C'est pas un bon jeu.
Si, si, c'est très bien. Ah non, très belle record. Bravo, Nicolas.
Bon, tout de suite, le quatrième extrait, ça devient plus difficile. Petit indice chez vous, c'est un de mes films préférés. On en avait parlé.
Bah, Lucas.
Ouais.
Blade Runner.
C'est raté.
Adeline.
Oui.
Alien.
C'est faux.
Oh.
Mais c'est dans le même esprit.
Prometheus.
C'est raté.
Je vais faire tes films Attends. Préférés dans ma tête.
Aïe, aïe.
Est-ce que ce serait Premier Contact ?
Non.
Ah, The Thing !
Putain, mais quoi ?
J'attendais.
Ouais, mais... Si je peux ajouter un petit bémol, j'ai dit mon prénom et tu as créé le film.
C'est une pénalité, je l'accorde.
Non.
Je l'accorde tout de suite à l'équipe des Rouges. J'attendais que vous entendiez les petits poum poum.
Ouais, bon, les...
Donc, The Thing de
Carpenter.
Le compositeur, s'il vous plaît.
Bah, c'est pas Carpenter aussi.
Ah, c'est Ennio Morricone.
C'est Ennio Morricone. C'est Ennio Morricone.
Ouais, et, allez.
Et est-ce que vous avez l'année ?
1982.
C'est raté.
Poum.
81.
C'est raté.
83.
C'est gagné.
Et voilà.
Ça vous fait 4 points à 7. Si vous avez un sans faute sur la dernière chanson, vous gagnez. Sinon, Nicolas prend la victoire.
On est chacun pour soi, de toute façon.
Ouais.
Celle-ci, elle est un petit peu technique. Mais je serais très fier de vous si vous la trouvez rapidement. Et c'est parti.
Nicolas ?
Ouais.
Orange Mécanique ?
Bien vu.
Putain.
Est-ce que tu as le nom de la chanson ?
C'est Beethoven, repris par Wendy Carlos ?
Non, c'est pas repris par Wendy Carlos. Si, attends, je dis de la merde. Oui, pardon.
Quand même. Le présentateur en son propre jeu.
C'est sorti en 72 ?
Non.
71 ?
En 1969 ou 68 ?
Non, 68, c'est 2001.
C'était bien 71.
Oh, chut.
Bravo.
Et du coup, tente un titre pour rigoler, mais là, c'est un long titre en anglais, donc...
Est-ce que c'est The Magpie Thief ?
Non.
Bah alors non, je ne sais pas.
C'est Funeral March of Queen Mary.
Très bien.
Qui a été repris, du coup, de Henri Purcell.
Très bien, très bien.
D'accord. Ça nous fait donc...
une énième raclée.
Après, je soupçonne Nico d'écouter vraiment comme ça, de façon complètement déformée dans ses playlists, les musiques de films.
Ça fait un super entraînement pour eux. On a donc le score honorable de 10 à 4. 4 étant votre score cumulé.
C'est une humiliation.
C'est pas humiliant, c'est une leçon d'humilité.
Moi, je persiste et signe que Nicolas triche, donc de toute façon, je serai dans le déni jusqu'à la fin.
C'est moche ce que tu fais, Aline.
Non, c'est la vérité.
Et donc le jeu est fini, merci Victor.
Merci beaucoup,
c'était assez court mais assez intense.
Et pour un peu réécouter une musique sans distorsion, on va se mettre la musique de générique du Cercle Rouge par Éric de Marsan. Donc très jazzy, car évidemment on est chez Melville, qui est signé Éric de Marsan, mais qui normalement le score avait été composé par Michel Legrand, mais Melville a dit non, ça ne me convient pas, il a totalement remplacé le score. Et donc juste avant de donner notre avis sur Melville en soi, je vous propose de le situer à travers une très courte archive tirée d'une interview de la RTS en 1967,
où on entend un peu la cinéphilie et la certaine estime de soi que pouvait avoir Melville.
Dans mes films, tout est faux. Ah oui, absolument, définitivement. J'applique toujours deux phrases. L'une de Charlie Chaplin, l'autre de Hitchcock. Charlie Chaplin dit « Il faut tuer le réalisme au nom de la vérité. » Et Hitchcock « Voulez-vous vous taire, s'il vous plaît ?» Et Hitchcock dit une autre phrase. « Quand je vois apparaître le hideux visage de la vraisemblance, je lui tords le cou. »
Ce ne sont pas des paradoxes.
Pas du tout. Parce que sans connaître ni la phrase de Chaplin, ni la phrase de Hitchcock, je l'ai toujours fait, d'instinct.
Et donc la voix de Jean-Pierre Melville, que j'adore, qui n'est pas du tout humble, qui est le contraire de l'humilité, mais qui a un tel talent. Donc je vais vous demander justement, quel est votre rapport au cinéma de Melville, comment l'avez-vous découvert? Donc Adeline, tu nous as un peu donné des pistes tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta découverte du cinéaste?
Déjà, j'aimerais commenter cette archive sur le fait que rien que de sa voix, on sent qu'il est un peu fin-toile. Alors t'avais peut-être entendu Louis, mais je pense que c'est préparer cette émission, ça m'a aussi fait apprendre le fait que je trouvais Melville très beau. Et très sensuel. Et pour autant, le cinéma de Melville, c'est vrai que pour avoir travaillé dessus, pour vraiment préparer l'émission et vraiment tout comprendre et comprendre pourquoi j'avais pas aimé, en fait, j'aime beaucoup le cinéma de Melville, contrairement à tes présuppositions éhontées tout à l'heure. En fait, j'aime beaucoup le cinéma de Melville. J'ai beaucoup aimé tous ses films à part Le Cercle Rouge. Même Le Samouraï, qui est peut-être celui que je trouve qui ressemble un peu au Cercle Rouge et que j'ai aimé et en même temps moins aimé. Mais bon, je sais que peut-être vous pourrez en parler plus tard, mais moi, Léon Morin prêtre, ça m'a énormément touchée. Et L'Armée des Ombres aussi. Enfin, c'est en fait, c'est. Et encore une fois, c'est des films qui sont beaucoup plus parlés. Donc peut-être que c'est plus ce que j'aime, parce que Léon Morin prêtre, ils font que blablater tout le long du film. Mais je pense que ouais, j'aime beaucoup son cinéma et je trouve aussi qu'il est très touchant. Tu parlais tout à l'heure des décors et t'as pas mentionné quelque chose, c'est que pendant le tournage du Samouraï,
les décors ont pris feu.
Et il y a une archive où un de ses opérateurs ou quelque chose comme ça va sur le tournage et retrouve Melville en pyjama au milieu des décors complètement dévasté. Et en fait, je trouve que c'est une anecdote qui est assez touchante, mais aussi qui relève beaucoup de sa sensibilité. Et pour revenir sur les décors, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans ces films.
Alors c'est marrant parce que je pense que j'adore L'Armée des Ombres, c'est peut-être son chef-d'œuvre. J'hésite entre, je trouve que la trilogie qu'ils enchaînent, Samouraï, Armée des Ombres, Cercle Rouge, c'est quelque chose d'incroyable et j'adore aussi, je comprends l'humanité que tu trouves dans ces films. Et pourtant, j'ai vu tous les 13 films de Melville, j'en ai rattrapé quelques-uns pour préparer l'émission, et justement, il y en a où j'accroche moins en fait, dans ces films qui sont moins Melvillien, quoi, comme on pourrait le dire. Ces films sont plus intellectuels, car il a commencé notamment en adaptant des grands auteurs, Vercors, Cocteau, etc. Je trouve qu'on le retrouve un peu moins, que c'est un peu plus maladroit. Je trouve que je sais pas si vous avez vu son tout premier film.
Sur le cirque
Non, pas 24 ans, le premier long métrage, je sais plus comment ça s'appelle, ça passe pendant la Résistance.
Ah, Le Silence de la Mer.
Le Silence de la Mer.
Je l'ai vu, ouais.
Et ça, je trouve, alors, peut-être que tu penseras comment, mais je trouve que c'est merveilleux, on sent déjà sa maîtrise. Mais pourtant, d'autres films tels que Quand tu liras cette lettre, qu'il n'aimait pas du tout, ou même Le Doulos, ou Le Deuxième Souffle, j'aime quand même un peu moins. Enfin, j'ai même un peu du mal. Et je crois que c'est le cas aussi pour toi, Lucas.
Ouais, j'ai un peu plus de mal avec son début de carrière, Le Doulos ou Léon Morin, ouais. Parce que après, ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit dans Le Samouraï, Un flic ou Le Cercle Rouge, c'est un peu le côté western. Il y a une petite patte western, je trouve, des hommes, voilà, très silencieux, filment parfois en gros plan. Et le fait aussi que la mort puisse tomber à tout moment, quoi. Et vous parliez de L'Armée des Ombres, la scène finale avec Simone Signoret.
Qu'on ne va pas révéler.
Non, trop tard, mais là, c'est vraiment l'exemple pour montrer que la mort peut vraiment tomber à tout moment sur un personnage dans les films de Melville.
Mais sur le côté western, je pense qu'il a beaucoup inspiré Quentin Tarantino, notamment, oui. À travers ses derniers films là, qu'on évoque. Vous disiez que vous avez plus de mal avec ses premiers films. Moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec son dernier, Un flic.
Oui.
Et j'ai commencé par là. Je connaissais pas beaucoup Melville, comme je l'ai dit en début d'émission. Et j'ai commencé par Un flic. J'ai trouvé ce film d'un ennui terrible, à part les 10 premières minutes qui sont superbes. Donc on a cette agence bancaire,
je pense braquée que tout le monde ne se rappelle
dans
que
la
ce
tempête,
début, en fait.
Mais c'est magnifique, c'est une ville fantôme avec toute cette brume. Et puis après, c'est d'un ennui terrible.
Je suis d'accord.
Mais heureusement, j'ai vu beaucoup d'autres films de Melville, ce qui m'a permis d'apprécier vraiment le cinéaste qu'il était, le cinéma qu'il réalisait. Et j'ai notamment moins aimé les films dans lesquels ça parle encore moins que dans les autres, donc Le silence de la mer, dans lequel justement c'est sous l'occupation, donc une famille française qui reçoit un officier allemand chez elle et qui va lui opposer vraiment le silence. Donc c'est un film, là on voit la guerre mais par la petite lucarne, par la fenêtre vraiment très, très intime d'une maison. J'ai adoré, moi mon film préféré de ma vie du coup c'est Le samouraï. Il n'y a pas un mot avant la 12e minute du film, j'ai compté.
Et c'est ça qui, en fait, c'est juste le coup, mais c'est ça qui a convaincu de long faire le film.
J'ai l'anecdote. Alors, est-ce que tu veux la raconter?
Non, je t'en prie, racontez-la.
Mais justement, Melville donc, a proposé le rôle de Gerbier dans L'Armée des Ombres à Delon, oui. Qui a refusé, qui lui a demandé s'il n'avait pas un autre scénario à la place. Melville lui a écrit pour lui donc, Le samouraï. Et à la lecture du scénario, un moment, Delon arrête Melville et lui dit « Ça fait 7 minutes et demie que vous lisez votre scénario, il n'y a pas encore l'ombre d'un dialogue, ça me suffit, je fais le film. » Et je trouve que Delon, là, il est au sommet de son art. Et Melville n'est pas au sommet de son art parce qu'il le sera, je pense, dans Le Cercle Rouge ou dans L'Armée des Ombres. Mais c'est le film, moi, qui me touche le plus, Le samouraï. Et c'est pour moi, quand il y a le moins de dialogue, que Melville est le meilleur, avec cette mise en scène cadrée, millimétrée, où le souci du détail est hyper important, où il faut faire attention avec beaucoup de minutie à chaque détail pour décerner tous ces petits indices qui nous glissent dans la mise en scène. Et sans aimer donc tous ces films, mais du coup je suis rassuré que vous aussi, j'en ai adoré d'autres à l'inverse.
Personnellement, j'ai découvert vraiment Melville avec Le samouraï. J'ai vu Le samouraï et j'en avais, enfin, moi je l'avais découvert, je crois, en 2013, quelque chose comme ça. Et dès le début, cette chambre, ce générique avec Delon qui est seul dans cette chambre toute délabrée, j'étais conquis, quoi. Donc tout le film m'a conquis. Et ensuite, j'ai pu découvrir plein d'autres Melville. Et le dernier que j'ai vu, donc, c'est un film de milieu de filmographie qui date à peu près des années 50. Et je vous conseille, c'est Bob le Flambeur. Du coup, vous l'avez vu.
Je crois pas celui-là.
C'est Bob le Flambeur qui annonce le Melville tardif. C'est un homme qui va vouloir commettre un casse au casino de Deauville, dont certains d'entre nous sont déjà allés et ont déjà fréquenté.
Les connaisseurs. Hein,
certains ne s'en souviennent peut-être pas, pas totalement.
Si, on se souvient.
Et donc oui, il y a déjà tout Melville. Il y a déjà même une scène où on ouvre un coffre sans aucun dialogue, sans aucune musique. Et donc c'est un film que je conseille vraiment, peut-être pour rentrer même dans la filmographie de Melville. Je trouve que c'est assez accessible et qu'on comprend déjà tout ce qui l'obsède, tout ce qui le passionne. Quoi.
Et ce que j'aime bien aussi, on parlait des personnages, c'est que lui, il ne clive pas les personnages. En fait, il n'y a pas vraiment les gentils d'un côté qui seraient les policiers et les bandits de l'autre qui seraient les méchants. En fait, je trouve qu'ils sont tous plus ou moins rattachés à un certain code de l'honneur que les policiers peuvent parfois transgresser, que les bandits peuvent respecter. Et j'aime bien, moi, cette façon de ne pas avoir de manichéisme, en fait, dans la construction des personnages.
Oui, vas-y, Lucas, non, désolé.
Non, non, vas-y.
Non, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Tarantino, au fait que peut-être... et en fait, moi, je suis peut-être pas d'accord avec vous sur le fait que ce soit des films de western.
Ah bah mais lui-même le revendique.
Ah, ouais. Oui,
lui dit qu'il fait que des westerns, en fait.
C'est que non, ça non bien sûr, je pense que c'est ça, mais moi, ça m'a fait beaucoup penser aux films de mafia, qui sont aussi liés aux films de western.
Oui.
Mais j'ai trouvé, et notamment, le fait que ce soit des chorales d'acteurs qu'on retrouve beaucoup, en fait, surtout les acteurs secondaires. Alors, j'ai pas su savoir quel était le nom de l'acteur, mais celui qui joue...
François Perrier.
Sûrement.
Les yeux un peu globuleux.
Même quand il n'y a pas de jeu, il joue Nicolas. Il faut qu'il trouve l'acteur.
Celui qui joue le flic dans Le samouraï. Ouais, c'est François Perrier. Et j'ai trouvé que c'était tellement agréable d'avoir des petites têtes, et même dans L'Armée des Ombres, Serge Reggiani ou des choses comme ça, en fait. Genre le fait qu'il y ait vraiment une ambiance qui soit toujours un peu de l'entre-soi. Et moi, ça m'a fait penser, et notamment le fait que ce soit toujours le même bar, le même studio qui fait le même bar, ça me fait penser un peu à Casino ou des choses comme ça. En fait, c'est des scènes un peu iconiques, mais qui font penser vraiment plus à la mafia. Moi, ça m'a vraiment fait penser à la mafia.
Puis comme dans les films de mafia, il y a plein de manteaux, il y a plein de Borsalino, de chapeaux. Ouais.
et des imperméables qui sont incroyables. J'ai un ami dédicace à lui qui, après avoir vu le samouraï, il voulait absolument s'acheter un imper et qui recherche toujours l'imper parfait pour ressembler à Delon du samouraï. Et donc oui, donc comme je le disais en intro, vous avez cité Tarantino, tu as sous-entendu Scorsese, mais c'est incroyable l'impact qu'il a eu à travers le cinéma mondial.
Puis même le cinéma asiatique, du coup.
C'est ça justement, j'allais en parler, John Woo. John Woo s'inspire à fond de Melville et a réinventé vraiment le cinéma d'action moderne en partant de Melville. Donc je sais pas si vous avez vu des John Woo ou pas, mais je vous conseille vraiment The Killer, qui est, je trouve, le plus melvillien des John Woo.
C'est ça que je trouve génial avec Melville, c'est que lui, il s'est emparé de certains codes du cinéma américain déjà, il les a transposés en France, et il a inspiré encore derrière d'autres cinéastes américains, asiatiques, et partout dans le monde, en fait.
Et justement, Donc vas-y Lucas.
Non, bah juste pour terminer, mais donc là vous parlez beaucoup du Melville réalisateur, mais on l'a aussi entendu par ton extrait, l'homme était captivant. Et d'ailleurs on se serait presque cru dans un film de Melville dans cet extrait, mais il était captivant. Et je sais pas si vous avez vu cette interview incroyable où il dit, c'était il y a très longtemps, que le cinéma allait mourir en 2020.
En 2020, oui. En 2020. Ça allait être ma conclusion.
Pardon, je suis désolé.
Non, je t'en prie, elle est parfaitement trouvée.
Je suis désolé. Mais si tu veux enchaîner, si t'as d'autres choses à dire là-dessus. Mais,
ah non, c'était...
Eh bien, voilà, on regarde ce qui s'est passé l'année dernière. Ouais. C'est une citation un peu, qui fait un peu mal.
Mais il aimait les citations.
Il adore les citations. Le Cercle Rouge, c'est un film métaphysique sur une poignée d'hommes qui ont rendez-vous avec eux-mêmes. C'est Melville qui en parle le mieux. Ouais. Et donc voilà, le cinéma est mort en 2020 malheureusement, mais on va continuer d'en parler. Et donc justement, malgré cette mort du cinéma qui va bientôt renaître de ses cendres, est-ce que vous avez des petites recommandations à faire à nos auditeurs ?
Eh bien, pour une fois, j'arrive avec non pas une recommandation, mais quatre recommandations, parce que je veux toujours plus.
À boule.
Alors, à boule. alors, j'ai deux recommandations qui sont un peu les pour aller plus loin sur cette émission. Donc en préparant l'émission, j'ai écouté un podcast qui s'appelle La Guerre des Claps, qui proposait une émission sur l'Armée des Ombres, qui était pas mal, bon, qui a pas mal de défauts, notamment ils n'ont pas Serge à la technique pour le mixage, et des fois ça c'est difficile à écouter, mais c'était vraiment d'un point de vue intellectuel très intéressant. Et également, je vous conseille d'écouter Le Plan Large sur Tavernier,
oui,
qui est très touchant et très beau. Et voilà, pour aller plus loin sur la filmographie de Tavernier, je vous conseille ça. Et enfin, je vous conseille aussi ce film de ce mois-ci sur l'explosion des genres, qui parle un peu de la transsexualité et qui est vraiment intéressant. Et ma dernière recommandation, elle n'est pas cinéphile, mais elle est personnelle et tout le monde m'attend. C'est Édouard Baird et Jacques Souvent qui ont un nouveau podcast sur France Inter qui est très chouette. Et la première partie s'appelle À la recherche de Benoît Poulvorde.
À toi, Louis, as-tu des recommandations? Après,
faut
reconseiller aux auditeurs de tout noter, car il y a beaucoup de choses à retenir.
On parlait de L'Armée des Ombres et Lucas parlait de Simone Signoret. Eh bien, moi, je vous recommande Signoret Figure Libre, un documentaire donc signé Michel Dominici, qui est disponible sur Arte et qu'on a vu ensemble au FIPADOC.
Exact.
Je sais pas si vous en souvenez.
Oui, c'était notre première recommandation lors de la séance du dimanche.
Il était au FIPADOC, ce film. Il est aujourd'hui sur Arte. Et donc, au détour de plusieurs interviews, Signoret évoque son métier d'actrice, elle évoque ses rôles au cinéma, ses engagements politiques, féministes, sa conception du couple aussi, qu'elle a formé avec Yves Montand, et cette image qu'elle voulait pas, qui lui colle trop à la peau non plus. Elle parle aussi, elle est très touchante, je trouve, quand elle parle, je l'ai revue du coup, du temps qui passe. Et donc à partir de ces interviews, mais aussi avec des archives et des extraits de films, la réalisatrice du coup nous fait le portrait d'une actrice qui refusait d'être une star, et qui a toujours refusé de se laisser enfermer donc dans le cliché de l'idéal féminin. Et juste pour vous signaler aussi que Petite Fille de Sébastien Lipsitz est maintenant sur Netflix. Donc vous pouvez le voir si vous ne l'avez pas vu.
Vous n'avez plus aucune excuse.
Voilà.
À toi, Lucas, une petite reco. Ouais.
Et également un documentaire. Je vous ai conseillé le mois dernier un épisode de Striptease. Bien, cette fois-ci, je vais encore vous proposer du Striptease, mais cette fois du Striptease qui est sorti au cinéma il y a 4 ans. Ni Juge ni Soumise sort au cinéma. Donc de Yves Hinault et Jean Libon. Et cette fois-ci, ça s'intéresse à une juge d'instruction à Bruxelles, donc qui reçoit dans son bureau tous les jours des accusés plus ou moins qui ont fait des délits plus ou moins graves. Et parallèlement, elle rouvre une enquête vieille de 20 ans sur des prostituées qui avaient été tuées. Et c'est du striptease pur et dur. On ne sait jamais si on doit rire, pleurer ou faire pause. C'est génial. Et il y a un climax au milieu du film sur une scène d'exhumation. C'est vraiment un petit bijou d'absurdité, alors que c'est du documentaire et ça rappelle vachement du Bruno Dumont, en fait, dont j'ai souvent parlé ici. Donc voilà, si vous adorez striptease, encore une fois, ni juste ni soumis, ça vous plaira forcément.
Et toi, Nico ?
Alors moi, pour faire rapidement, car il ne reste plus que 4 minutes pour conclure l'émission, ça va déjà soutenir Radio Campus Paris sur Helloasso, car vous savez sûrement qu'ils sont en train de faire une cagnotte pour pouvoir avoir un nouveau site. Et surtout, cinéma selon Jean-Pierre Melville, que les éditions Capricci m'ont gentiment envoyé, et qui m'a aidé vraiment à préparer toute cette émission, et qui est passionnant, où c'est un peu comme Hitchcock-Truffaut, mais avec Melville qui répond à des questions dans les années 70, et qui parle vraiment de son cinéma, de son art, de ce qu'il pense, et ça fait 200-150 pages, et donc vraiment je recommande.
Puis même les éditions Capricci qui sont toujours...
toujours là.
Toujours là, franchement, toujours de très très bons, très, très bons livres.
Et donc maintenant vient l'heure du tirage au sort, car c'est Victor qui va tirer un petit papier au sort sur lequel on a écrit le nom d'un film, et on va être éclairé sur quel film on va parler la prochaine émission.
Et ben, comme quoi, vous voyez, le hasard est très très bien fait, et le sort m'a donné ce papier sur lequel est inscrit Borat, totalement pris au hasard.
Encore ?
Il n'y a eu aucune corruption.
Aucune corruption, aucun regardage de papier préalable, absolument pas.
Et bien, sur 4, on va parler de Borat.
Wow.
Avec grand plaisir.
Avec le génial Sacha Baron Cohen. Donc, pour résumer rapidement, qui est une sorte de film mi-fiction, mi-caméra cachée. On ne sait jamais vraiment ce qui a été tourné en caméra cachée et ce qui est joué. Et c'est ça qui rend le truc génial. Film pour lequel Sacha Baron Cohen a eu des dizaines de procès, d'attaques en justice. Moi, je trouve ça génial.
Et bah écoute, je le reverrai pour peut-être me forger notre avis. Victor, vous avez écrit quoi sur les papiers sur
J'avais papier écrit Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud pour partir un peu dans le dessin animé. Donc,
Très beau.
Toi, et moi, ce mois-ci, nous partions en Inde pour Devdas.
On fait le tour du monde avec Aline.
Un jour, on arrivera peut-être.
Bah, écoutez, moi, j'avais écrit un film américain réalisé par un Allemand au temps du cinéma muet, mais où c'était quand même sonore, genre il y a une piste son, mais juste pour le son, et c'était L'Aurore de Murnau.
Oh, ah. C'est un de mes films préférés.
Je le sais.
Oh là là.
J'espère que tu le reproposeras.
Remets-le la semaine prochaine, je ferai un tirage au sort sur L'Aurore.
Ok. Et ben sur ce, ben on se quitte déjà après cette émission, et pour rester dans une ambiance un peu melvillienne, pardon, on se quitte avec un morceau tiré du Cercle Rouge par Éric de Marsan, qui n'est pas sans rappeler notre générique habituel. Merci d'avoir écouté la séance du dimanche. N'hésitez pas à suivre Vitamine Ciné sur Instagram, ni à vous abonner au podcast sur Spotify et toutes les plateformes disponibles. On se retrouve le 2 mai donc pour une nouvelle émission consacrée à Borat. À très vite.
Prenez soin de vous.